Cinérama.
Cette nuit, notre plastron émetteur a été saboté.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Espèce de sac à foutre.
Je t'aime.
Tu vas rôter du sang.
Cinérama.
Défense de rire et défense de pleurer.
Moi, ce qui me fait chier, c'est les effets spéciaux minables. Je suis porté.
Je suis ton père.
Un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je dois reconnaître que vous affirmez des choses plutôt incroyables et qui devraient être vérifiées.
Cinérama.
Bon, en piste, les louloutes.
Actualité cinéma et tout le reste sur Divergence FM.
Nous sommes en plein hiver, bonjour, c'est Cinérama. Et qui dit hiver dit généralement bien le froid, et qui dit froid dit on a envie de se réchauffer, on va au cinéma, et ça tombe bien parce qu'il va y avoir des grosses sorties aujourd'hui, notamment bien le dernier Tarantino, mais on va pas en parler parce qu'on l'a pas vu. En revanche, on va parler d'autres films, et toi tu vas parler d'une sortie DVD, Manu.
Oui, je vais vous parler d'un film de Jess Franco, Venus in Fur, qui sort donc chez Artus, en compagnie d'ailleurs de trois autres Jess Franco. Donc j'ai choisi ce film à la place d'ailleurs d'une comédie autrichienne que je devais voir, et pour cause de maladie, je n'y suis pas allé.
Voilà,
c'est un paradis amour.
Voilà. Et puis, eh bien, moi je vous parlerai mais un tout petit peu du dernier Paul Thomas Anderson, qui a fait sensation. Et puis, je vais vous parler de La Parade, film serbe. Qui est une comédie, ça fait du bien. Et puis nous entendrons aussi Gérard Lanvin, qui était là pour son film Amitié, enfin pas son film, mais le film dans lequel il joue, Amitié sincère. Et donc, eh bien, on l'entendra parler avec son bagou habituel, et nous écouterons aussi, eh bien, nous parlerons plus exactement de la programmation jeune public du ciné Nestor Burma. On en parle très très peu du ciné Nestor Burma, c'est Cinérama.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Conneries, 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 je vous dis. Et même saloperie, hein.
Sur Divergence FM.
La Parade, donc, je sais pas comment ça se prononce, de Zdran Dragojevic.
Oui, ça doit être ça.
Ça te paraît correct. Voilà. C'est le prix du public lors de la dernière édition du Cinémède. La Parade, donc, tombe plutôt bien dans le timing politique français, car de parade, il s'agit de la Gay Pride. Alors, évacuons tout de suite un malentendu. Comme un prix du public est soit un film drôle, soit un film triste, eh bien, cette année, le public du festival a choisi un film hilarant qui mêle des homosexuels version cage aux folles à des skinheads, des ex-mercenaires et des mafieux en tout genre. Le sujet de La Parade est simple. Être homosexuel en Serbie est compliqué. Le revendiquer sur la place publique peut être dangereux. Les gay prides réussis ont été rares. Celle de 2010 que l'on voit dans le film l'a été à sa manière, puisqu'un cordon de 6500 policiers protégeait 1000 militants homosexuels face à plus de 7500 skinhead ou apparenté. Alors quand je dis que le sujet de La Parade est simple, c'est qu'il va rapprocher des êtres qui sont actuellement montrés du doigt et d'autres qui furent tous ennemis dans le passé, un Serbe, un Croate, un Bosniaque et un Kosovar. Tout ce petit monde va œuvrer pour la reconnaissance des droits homosexuels, ce qui paraît improbable, et ça tombe bien, on est dans une comédie. Un humour parfois gras avec des personnages d'ailleurs qui sont majoritairement surpoids. C'est plus drôle, il faut croire. Alors il y a du cliché dans l'air, comme l'Austin Mini Rose du couple homosexuel, le pitbull du chef des mafieux ou le blond platiné de sa femme. Les situations cocasses s'enchaînent, certaines très improbables, mais ce qui compte, c'est cette bonne ambiance qui désamorce le slogan « on va casser du PD » jusqu'à ce que malheureusement la comédie se mue en tragédie. Et là, on s'éloigne des clichés pour s'approcher de la réalité du combat homosexuel en ex-Yougoslavie, comme dans d'autres pays. Allez, on prend au hasard cet exemple de démocratie qu'est la Russie, puisqu'à Moscou, la Gay Pride est interdite. Donc, La Parade n'est pas un film très subtil, hein, mais au travers de ces anciens combattants de l'ex-Yougoslavie, mêlés à ces militants homosexuels, transparaît une réflexion sur l'identité et la liberté, tout cela au rabais. Mais voilà, c'est un film quand même agréable. Alors, est-ce que c'est la gravité de certains films projetés lors du festival Cinémède qui a fait bien choisir ce film comme le prix du public? C'est bien possible, parce que quand forcément c'est la seule comédie, eh bien, ça fait un bien fou de voir un film où l'on rit, au milieu de, je sais pas, quarantaine de films où l'on ne rit pas.
Il n'y a pas beaucoup de comédies, un festival méditerranéen.
Non, il y en avait une et une autre qui était une comédie amère. Alors voilà, il y a une comédie amère, il y a amère après qui arrive. On continue.
Cinérama.
Bon, est-ce que de voir ce film, ça vaut le coup de se prendre une méga prune, fourrière et compagnie?
Sur Divergence FM.
Allez, on va faire vite. On va écouter donc Gérard Lanvin, qui joue dans, eh bien, c'est pas vraiment une comédie, mais Mais c'est un film léger, ça s'appelle Amitié sincère, ça va sortir la semaine prochaine. Donc il était à Montpellier et puis bien, il s'est lancé sur les sujets un peu qu'on entend en ce moment autour du cinéma français.
On va bien rigoler.
Le talent majeur d'un metteur en scène, c'est son casting. S'il ne sait pas aller vers cette exactitude, c'est pour ça qu'on voit parfois de très mauvais films en France, parce que c'est des castings amicaux, quoi. C'est même pas pensé. Ouais. C'est voulu comme ça pour partager des choses.
Oh non, ça suffit, de quoi s'agit-il, d'une blague ?
J'ai jamais joué avec Auteuil, par exemple. Ça fait 40 ans qu'on fait du cinéma, c'est quand même hallucinant dans un pays où on n'est pas nombreux finalement. Les mecs, ils n'ont jamais tenté le coup, quoi. Ouais, non, parce qu'ils n'y pensent pas. Il y a des débats en ce moment sur tout ça. Bon, on va pas rentrer là-dedans parce que ils sont ridicules, ces débats. Mais le système, il marche comme ça et depuis toujours. Donc on va pas remettre ça en question parce qu'un crétin a signalé deux bricoles. Mais la problématique, c'est que il y a quand même des entreprises. Ce sont les agences d'acteurs. Et plus l'agence est grosse, plus elle a d'acteurs importants. Moi je ne suis pas chez Armédia, mais Auteuil, Depardieu, tout ça, on les a coquinés ensemble plusieurs fois, machin, tout ça, parce qu'en fait c'est un boulot qui se fait à l'intérieur de l'agence, parce que comme c'est 10% sur chaque acteur, bah, si on peut avoir 80% du film, tout va bien, on va prendre des acteurs qui sont dans la même agence plutôt que... Donc pour un peu que le metteur en scène soit dans la même agence aussi, on fait un film 100% Armédia. Ils s'en foutent complètement, de toute manière, totalement, de leur produit. Ils s'en foutent. Ce qu'ils espèrent, c'est que ça marche, mais en même temps, ils n'ont rien fait pour. Donc, ils s'en foutent totalement.
J'en ai bien peur.
On croit que le cinéma, c'est de la dilettante. Il n'y a rien de plus difficile quand on arrive avec des acteurs qui n'ont rien préparé, parce qu'ils croient que c'est les vacances, mais ce n'est pas du tout ça. On n'a pas de temps à perdre. Ça coûte trop cher pour perdre du temps. Donc, en cela, il faut reconnaître leur aptitude au travail. Et c'est vachement intéressant. Parce que moi, je signale que la jeunesse d'aujourd'hui, elle a envie de bosser. Il ne faut pas croire qu'elle est feignasse et qu'elle a envie de rien foutre. Sauf qu'il faudrait que M. Hollande, avec ses amis qui savent tout, hein, qui ont un avis sur tout et surtout un avis, il faudrait peut-être qu'ils y pensent à ces jeunes avant qu'ils se barrent tous et qu'on reste qu'entre vieux ici dans ce pays.
Tout ça est triste à pleurer. Pourquoi est-ce que ça me donne envie de rire ?
Les acteurs qui s'en vont, là c'est pareil. Si on part sur un petit débat, là, on reproche à Danny Boone son succès.
Enfin, comme d'habitude.
Il vient d'une famille de mineurs. On reproche à Depardieu son succès. Il vient d'une famille de... Mais alors, pire que des mineurs, dans un autre genre. On reproche... Moi, je viens d'une famille de forains. Je dis, on nous reproche nos réussites, mais qui se permet de commenter ces réussites ?
C'est assez extravagant.
C'est à coup de boulot. Si un système vous donne de l'argent pour travailler, c'est parce que vous l'en faites gagner. Est-ce que vous pensez qu'il y a un seul système dans le monde qui donne de l'argent comme ça parce que tu t'appelles Gérard ? Tiens, là, de l'argent, tu t'appelles Gérard. Non, c'est pas du tout ça. C'est quel est le... Vous savez, ils savent vous mettre à la rue, hein, ils savent vous mettre à la strava, c'est-à-dire votre film n'a pas marché, ils vous mettent à la strava. À part si un metteur en scène a prévu de vous prendre. Mais la production du cinéma ne marche pas, le film ? Allez, au revoir. On est remplaçable, hein. Il faut savoir que tout le monde peut remplacer tout le monde. Le problème, c'est qu'à un moment, ces discours vulgaires, ils viennent d'où ? Ils viennent d'où ? D'une appréciation d'un Premier ministre qui dit que l'attitude est minable. Il n'a pas dit que l'homme était minable. Mais ça engendre des attitudes comme celle de Toretton. Et entre la délation et une attitude minable, je préfère une attitude minable. Donc vous voyez, on va sur un terrain là où c'est les jeunes gens, nos jeunes gens, c'est-à-dire nos enfants, ceux à qui on fait croire que c'est l'avenir du pays, il faudrait peut-être, au lieu de leur dire qu'à le 21, même à des gamins de 9 ans, juste 4 jours avant Noël, ça fait un an qu'ils se préparent, les mômes, que c'est la fin du monde, ça en a détruit plus d'un. Croyez-le, il y a beaucoup de mômes qui sont à la picole et au shit parce qu'on les traite comme ça. Et il faudrait peut-être changer un peu les discours. Moi, je dis, nos jeunes acteurs, ils sont super travailleurs, quoi. Il n'y a pas de problème, quoi. Quand on les voit, on n'est plus inquiet. On sait qu'ils vont arriver et nous donner quelque chose.
Oui, bien sûr.
Voilà, c'était Gérard. Bon, il est trop cher pour qu'on prenne une chronique hebdomadaire, hein, dans Cinérama, parce qu'il a des choses à dire. Et puis, bah, il prend un sujet, il en prend un autre. Voilà, c'était comme ça. On l'écoutera un peu plus longuement, mais cette fois-ci sur son film Amitié sincère, la semaine prochaine.
Qui êtes-vous ?
Cinérama.
J'ai pas très bien saisi.
Sur Divergence FM.
Bon, bah, Gérard Lanvin, il jouera certainement pas dans les films de Jess Franco qui payent très très peu, voire pas du tout ses comédiens, déjà. Alors la sortie chez Artus de 4 Arte de Franco, l'enfant terrible du cinéma ibérique, n'est évidemment pas un événement pour le cinéphile lambda. Pour l'amateur de bis, en revanche, il s'agit d'une véritable aubaine, d'autant qu'au milieu de ces perles introuvables, jusqu'alors, figure un authentique chef-d'œuvre. Oui, vous m'avez bien entendu. Jess Franco n'est pas seulement le réalisateur de bandes fauchées à base de zoom sur les poils pubiens, comme aime le claironner certaines mauvaises langues, mais aussi un des créateurs les plus libres de l'histoire du 7e art. Il était temps d'ailleurs, et d'ailleurs il lui est bien rendu, que la Cinémathèque lui rende un hommage, comme ça a été le cas il y a 2-3 ans, aux grandes âmes de certains gardiens du temple, comme le critique en béton de Positif, Michel Simon, qui s'était fendu d'un édito très très virulent à l'époque. De ses débuts placés sous le signe du néo-fantastique gothique avec l'horrible du docteur Orloff, à ses adaptations classieuses de Sade, notamment Eugénie et Justine, en passant par l'excellente comédie d'espionnage écrite par Jean-Claude Carrière, Carte sur table, Jesús Franco a occupé une place indéfinissable et subversive au sein du cinéma espagnol. Vénus in Fur peut être considéré, à mon avis, comme le plus beau film de sa longue carrière. Plus de 180 longs métrages au compteur. Amateurs de polissonnerie, nous ne parlerons donc pas des trois autres sorties d'Artus, soit, je le dis juste pour le plaisir des titres, Plaisir à trois, Célestine bonne à tout faire, et enfin La comtesse perverse. Sur une plage déserte, Jimmy Logan, un trompettiste de jazz, découvre le cadavre d'une femme noyée. Cette femme, Vanda, il l'a croisée la veille dans un club où il jouait. Instantanément, il tombe sous le charme de cette splendide silhouette. Attiré, il la suit et subjugué, il la regarde se faire violer par deux hommes et une femme. Le lendemain, le musicien part pour Rio où il rencontre Rita, une chanteuse noire. Le fantôme de Vanda apparaît, vêtu de fourrure, déterminé à se venger. Somme toute classique, mais filmée comme une sorte de rêve éveillé, un trip onirique où Franco prend un malin plaisir à perdre le spectateur entre fantasme et réalité. De l'aveu même du cinéaste, Vénus in Fur a été écrit à la manière d'une longue pièce musicale improvisée, de free jazz de préférence. Le sens importe moins que les sensations, que les images magnifiques que procure le film. Même si le film est bien construit, sans incohérence notoire, avec un épilogue vertigineux qui boucle la boucle, le plaisir immédiat provient de sa mise en scène aérienne, dont l'audace graphique rappelle parfois les premiers films muets de Buñuel. Ne nous y trompons pas, car en dépit d'une voix off omniprésente, Vénus in Fur pourrait se visionner sans une ligne de dialogue. Transposition surréaliste et érotique du mythe de la veuve noire chère au thriller hollywoodien des années 40-50, Vénus in Fur, qui s'appelait d'ailleurs à l'origine Black Angel, n'est pas l'adaptation du court roman érotique de, vais-je y arriver à le prononcer, Léopold von Sacher-Masoch. Vous connaissiez ? qui venait alors d'être transposé à l'écran par l'italien Massimo Dallamano. Il s'agit d'une véritable expérience cinématographique, une immersion totale au cœur des aspirations fétiches du cinéaste, alors en pleine possession de ses moyens. Délire saphique et sadien, jeunes miroirs, plans quasi picturaux avec ses comédiens immobiles comme des mannequins, musique psyché de Manfred Mann, récits gigognes alternant passé, présent, futur, du grand Jess Franco, qui servira de modèle, d'inspiration avouée ou non, à des auteurs comme Abel Ferrara ou David Lynch. Bref, pour moi, c'est une excellente introduction dans l'univers fou et baroque de l'espagnol, avec en prime un casting 4 étoiles avec Klaus Kinski, Maria Rome et Dennis Price, grand acteur anglais, vu d'ailleurs dans le génial Noblesse oblige. Donc on trouve le film à peu près partout, chez Artus, hein, à part à la FNAC, où les 4 films ont été retirés de la vente pour une question
atteinte
de,
à la pudeur,
atteinte à la pudeur, obscénité, ce qui est incompréhensible, ah ouais, parce qu'ils ont laissé les pornos de Wildside dans les bacs. Donc, un grand mystère.
Ouais. Bon. Ben merci, Manu, en tout cas. Pour, alors, c'est sorti cette semaine ou...
C'est sorti le 4 janvier, donc, oui, donc ils sont voilà. disponibles sur les sites depuis, depuis un petit mot.
Il y a, y a le semaine. Lien, d'ailleurs, hein, sur...
Amazon, facilement, enfin, à peu près sur, sur à peu près tous les sites de vente.
Cinérama continue.
Cinérama.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Depardieu part en terre démocrate et ça fait polémique. Un producteur, celui de Wild Bunch, nous explique que certains acteurs se goinfrent sur les deniers publics et ça fait polémique. Paul Thomas Anderson nous livre The Master avec un personnage s'inspirant du fondateur de la Scientologie, Ron Hubbard. Et là encore, la polémique ne tarde pas à monter comme une mayonnaise dans l'émission Top Chef. Mais la polémique est surtout américaine. En France, pour le peu que j'ai lu, la polémique concernant The Master tient surtout à répondre à cette question. Est-ce que The Master est un film réussi. Alors, Cinérama, reculant devant aucune difficulté, répondra ou tentera de répondre au moins à cette question. Alors déjà, The Master est un long film, 2h20. L'histoire a intérêt à être rythmée ou les paysages grandioses, sinon on risque de piquer du nez. En même temps, Paul Thomas Anderson est un habitué puisque There Will Be Blood durait 2h40 et son Magnolia s'est tiré sur 3h. Anderson est un maniaque, un méticuleux, si bien que ceux qui aiment le réalisateur ajoutent quand même avoir vu son film... il est un peu trop long, il y a peut-être 15 minutes en trop. Voilà, c'est ce que j'ai entendu. Alors, si The Master est un long film, il n'empêche que dans la longueur, il y a beaucoup de maîtrise. Peut-être qu'il manque de rythme, mais chaque séquence est maîtrisée et offre une vision purement cinématographique. Alors, c'est donc l'histoire de Freddy, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale qui a ramené du conflit un alcoolisme, une légère obsession pour les femmes et une rage intérieure qui explose en violence. Interprété par Joaquin Phoenix, ce Freddy est une réussite. Quelques tics, le pantalon bien haut sur les hanches, un peu chétif, son mal-être est symbolisé par des vêtements trop grands et une démarche bancale. Ce Freddy brisé rencontre au hasard d'une soirée Lancaster Dodd, le maître, charismatique meneur d'un mouvement nommé La Cause. Alors on peut parler de deux contrastes, qu'il soit physique, le maître est incarné par le joufflu Philip Seymour Hoffman, et de contrastes intellectuels et sociaux. C'est pourquoi Freddy sera le cobaye déclaré du maître, ce dernier inspiré donc du fondateur de la Scientologie par le biais d'expériences psychologiques ou comportementalistes, va tenter de guérir Freddy, mais pas seulement.
Il y aura des gens dans le civil qui ne comprendront pas pourquoi vous êtes dans cet état. Vous avez sur les épaules la responsabilité du monde de l'après-guerre.
Un petit sourire.
Tu as une pause ?
Dans 10 minutes ?
Le civil moyen qui aurait dû supporter le même stress que vous avez subi aurait indubitablement les mêmes problèmes nerveux que vous.
Je veux que vous compreniez. Je veux avoir les...
Comment je suis arrivé là ?
Vous étiez agressif, vous buviez trop d'alcool.
Que faites-vous ?
Je suis écrivain, mais aussi docteur en physique nucléaire et philosophe théoricien. Mais avant tout, je suis un homme, comme vous.
Il a écrit toute la nuit. J'ai l'impression que vous l'inspirez.
Ce que nous allons faire va vous pousser à mener une existence au sein d'un groupe, d'une société ou d'une famille.
Mais la science, par définition, ne peut pas dépendre de l'opinion d'un seul homme. Si elle dépend de la volonté d'un seul homme, cela devient la base d'un culte.
En sommes-nous là ? Notre seul moyen de défense est d'attaquer.
Tu inventes tout au fur et à mesure. Tu ne le vois pas ?
Je me demande comment il est arrivé ici et ce qu'il veut. C'était donc tellement facile de nous croiser ?
Vous êtes un esprit éternel.
Je ne vous crois pas, vous inventez tout.
Calmez-vous.
Je sais que vous essayez de me calmer, mais j'en veux seulement entendre la vérité.
Votre façon de faire des remarques est irréfléchie. Vos échecs passés vous hantent-ils ? Votre vie est-elle une lutte ? Votre comportement est-il erratique ? Que fuyez-vous ?
Il est dangereux.
Non ! Calmez-vous ! Non !
Il nous détruira si nous continuons à le garder ici.
Si nous ne l'aidons pas, alors ce sera nous qui aurons échoué avec cet homme.
Peut-être est-il trop tard, ou peut-être est-il fou.
Ben version française déplorable. Franchement, la voix de Philip Seymour Hoffman, c'est juste répugnant. Donc, entre les deux personnages, il ne s'agira pas seulement d'une relation de soignant à soigné, il y aura ce petit quelque chose qui argumente chaque scène, un petit quelque chose qu'il sera difficile de nommer. Alors, formellement, The Master est une réussite, travelling, flou, gros plan, séquence intimiste ou au contraire profusion d'acteurs, scène flamboyante quand il s'agit de plan-séquence ou scène volontiers provocatrice quand il s'agit de convoquer l'obsession de la sexualité. The Master a tout d'un bel objet cinématographique, mais qui, paradoxalement, avec toutes ses qualités formelles, n'éclaire pas le fond et peut provoquer un ennui passager ou prolongé. Il n'y a pourtant rien d'intellectuel dans le propos, tout y est sensible, mais peut-être trop nébuleux et pourrait lasser le spectateur. Voilà. Bon, j'ai plutôt été ébloui par la forme, mais j'ai malheureusement pas été forcément emmené par le fond. Mais voilà, sinon la musique, alors formellement c'est très beau, et puis la musique a été signée aussi par le guitariste des Radiohead.
Cinérama.
Ça ne vous gêne pas si je prends quelques petites notes?
On va très vite et on écoute donc la programmation jeune public du cinéma Nestor Burma.
Votre nom, s'il vous plaît?
Donc Sophie Menanteau, je suis chargée de mission cinéma à la ville de Montpellier.
J'ai tout de suite compris que vous étiez extrêmement fort dans votre spécialité.
Au sein du cinéma Nestor Burma, il y a une jeune femme qui s'appelle Claire Legueuil qui a en charge cette programmation jeune public et qui programme à la fois des films patrimoniaux mais également des films d'actualité sur l'image. Ce qui fait qu'on a à peu près deux films jeune public par semaine dans ce cinéma qui s'adresse à toutes les familles mais également aux enseignants ou aux personnels éducatifs des centres de loisirs qui peuvent faire des commandes spéciales pour venir voir ces films. En plus de la programmation, en plus de la possibilité de voir ces films en salle, il y a effectivement un travail que mène Claire d'accompagnement, d'animation. Alors ça peut être des ciné-goûters, ça peut être des séances de discussion, d'échanges qu'elle appelle ciné-petite analyse, et puis ça peut être aussi des ateliers de pratiques artistiques où par exemple il y a un film sur le Japon autour de tout ce qui est le travail. Là, par exemple, La boutique des pandas, c'est des films d'animation en papier découpé. Bon, là, elle va travailler sur un atelier origami, par exemple, ou ce genre de choses. Voilà. Donc, elle permet, et en plus de la discussion, en plus de voir le film, de pouvoir s'expérimenter et travailler sur des ateliers plus pratique.
Alors il y a des choses étonnantes hein, parce que autant il y a des dessins animés donc voilà vous le dites, hein, papier découpé, enfin voilà ce sont des formes classiques du dessin animé, mais du 6 au 12 février par exemple, donc c'est noté à partir de 9 ans, on pourra voir L'étrange créature du lac noir, donc qui a été le premier film en 3D relief.
Qui a été un des premiers films effectivement en 3D relief, il y avait eu d'autres petites expériences avant, mais bon c'est vrai qu'il est notable celui-ci, c'est une version restaurée, c'est pour ça que Claire a programmé ce film-là, un film de Jack Arnold, qui avait réalisé après L'homme qui rétrécit, donc c'est quand même un vrai chef-d'œuvre. Et effectivement, c'est très important ce que vous avez dit, c'est un film à partir de 9 ans, c'est vrai que Claire fait un travail vraiment spécifique, l'âge pour aller voir ce type de film est essentiel, donc n'y allez pas trop tôt, même si c'est quand même les premiers films de monstres, des choses assez poétiques, avec des scènes subaquatiques qui ont inspiré d'autres réalisateurs après, comme Spielberg, hein, par exemple, Les Dents de la Mer, et vraiment des choses à pas louper, et notamment ce film bénéficiera d'une séance exceptionnelle le dimanche 10 février avec Tim Mandler qui parlera justement de ses premiers films en 3D relief qui se voyaient en fait avec les lunettes hein, qu'on mettait avec des petits de bleu et le rouge, voilà. Et bon, qui avait été une expérience mal suivie à l'époque. Bon, à l'époque, c'était il y a longtemps, c'était dans les années 50. Et voilà, donc cette version est restaurée en 3D qui pourrait être vue au cinéma Nestor Burma.
Pourquoi avoir tiré? Il ne vous a rien fait.
À vous entendre, on dirait que je vous ai harponné. Et à quoi ça pourrait bien nous servir de jouer à cache-cache avec cette créature?
On en saura davantage si on la capture vivante.
Je vous en prie, dites-nous ce que vous avez découvert.
Je ne sais pas quel nom lui donner.
C'est incroyable, mais elle a l'air vraiment humain.
Sincèrement, si l'on se fie à ce que l'on a pu voir, c'est une découverte majeure. On peut dire que c'est incomparable.
On va regarder, j'ai des preuves dans l'appareil.
Dans le même ordre d'idées, donc, il y a Ernest et Célestine, là, ce sera du 20 février au 5 mars. Donc ça, c'est plutôt classique et c'est sorti en 2012. Et puis... Là encore, chose un peu exceptionnelle, Les choses sont noires, donc film de Michael Powell et Henry Pressburger, donc C'est un film assez long, une version originale sous-titrée. Bon, c'est l'histoire d'une danseuse, donc peut-être que ça peut intéresser les jeunes filles, précisément. Mais voilà, là aussi, c'est quand même un effort particulier en direction du jeune public.
Oui, tout à fait. C'est des films assez exigeants. C'est les chaussons rouges, hein, pas les chaussons noirs, comme vous l'avez dit. C'est pas grave.
Oh, comme c'est fâcheux.
Ah oui, très.
Bien que ça a son importance, d'autant que l'affiche est magnifique avec ses magnifiques chaussons rouges aux pieds. Voilà, donc effectivement, c'est un film restauré. On doit cette restauration à des fans. C'est vraiment un film qui a marqué considérablement l'histoire du cinéma. Coppola disait de ce film que c'était le seul film à voir avant de mourir. Donc quand même, il faut y aller. Il faut bénéficier vraiment de cette expérience un peu unique. C'est vraiment un film avec beaucoup d'enchantement qui parle évidemment de beaucoup de l'imaginaire et puis le rôle de la création artistique, hein. C'est vraiment une histoire exceptionnelle qui a inspiré beaucoup de réalisateurs. Scorsese est absolument fan de ce type de cinéma. Il a fait Black Swan, il a fait Shutter Island avec justement des atmosphères comme ça très je me trompe, hein, je vous vois agiter la tête. C'était pas Scorsese,
non, enfin,
c'est vrai. Mais Black Swan est un peu, c'est aspiré, voilà, de cette et Scorsese avec Shutter Island pour le coup, voilà. Et voilà, c'est cette atmosphère un petit peu étrange avec une poésie visuelle très très forte, voilà, que j'espère que le public pourra découvrir. Et c'est vrai que c'est assez unique. Il y a plein de films d'animation, que le cinéma d'animation, c'est un genre pas seulement pour le jeune public, mais là, effectivement, il y a des offres assez fortes sur le jeune public, notamment en février, un film de Osoda qui sort là, ces jours-ci, dans des salles plus grandes, qui va être, un très beau film. Je ne l'ai pas vu, mais vraiment, je pense à un magnifique film d'animation. Cinéma japonais, il y a d'autres films de réalisateurs japonais qui vont ressortir, comme Le Royaume des Chats, alors, qui est un film qui date déjà de 2002, mais qui a un magnifique conque initiatique et je pense qu'à avoir. Et puis ces petits films d'animation pour les tout petits, parce que le Nestor Burma propose aussi du cinéma pour les tout petits, et ça c'est quand même intéressant sur Montpellier, comme la boutique des Pandas là, qui sort là juste en ce moment et qui est vraiment, mais c'est vraiment de toute beauté, c'est un vraiment très joli programme et ça à voir absolument.
Le Nestor Burma est plutôt dans une mission de pédagogie, de découverte, parce que là, c'est de l'anti-Disney, enfin, qu'on retrouve forcément au Nestor Burma, donc chaque semaine, voilà. Est-ce que ça fonctionne, pour le coup? Parce que le jeune public, il a accès à la télévision, il peut voir des dessins animés à peu près tous les jours, enfin voilà, c'est plutôt simple pour lui, donc est-ce que ça fonctionne?
Alors oui, ça fonctionne, et ça fonctionne très très bien. Sur Cinéma Nestor Burma, là, cette année, on a fait 22 000 entrées, ce qui est plutôt pas mal pour une toute petite salle de 108 places, et environ un tout petit peu moins de 50% du public, c'est ce jeune public. Ce jeune public accompagné d'adultes, hein, donc on les compte aussi dans les entrées, c'est l'écran des enfants, mais ça fait à peu près presque 10 000 spectateurs qui vont voir ces films programmés, donc oui, ça marche très bien. Et c'est vrai que le jeune public et les jeunes en général, aujourd'hui, voient beaucoup d'images, d'où l'importance effectivement de faire cette programmation avec des films très exigeant pour voir autre chose et puis pour décrypter ces images-là de manière à mieux décrypter le monde qui nous entoure et toutes les images qu'on voit aujourd'hui sur Internet, tous ces films-là. Mais un travail d'éducation à l'image, c'est aussi prendre en considération ce que les jeunes voient, partir de ce qu'ils voient le plus couramment possible pour arriver à, c'est vrai, des films un peu exigeants comme ça qui ont marqué ou qui marqueront l'histoire du cinéma pour en faire des spectateurs de demain averti. Donc oui, c'est une mission que le cinéma mène très bien avec le travail de l'équipe qui est vraiment exemplaire. Je les félicite.
C'est une très bonne idée.
Parmi les ateliers qu'on pourra suivre, que les jeunes pourront suivre au mois de février, il y a un atelier avec La Fabrique, hein, pour justement fabriquer un film d'animation.
Un atelier qui a été proposé par Claire avec l'association La Fabrique, où pendant 3 jours, en plus de voir des films, parce qu'il y aura des films d'animation proposés sur cette période des vacances, donc du 25 au 27 février, la possibilité de fabriquer, parce qu'aujourd'hui, voir des films, c'est bien, en discuter, c'est essentiel, mais pouvoir s'essayer à l'expérimentation, c'est aussi, ça fait partie de ce travail d'éducation à l'image, et donc du coup, j'invite toutes les personnes de 8 à 12 ans qui sont intéressées à se rapprocher de Claire Legueil.
À vos ordres.
Et donc, il faudra aller donc appeler le cinéma Nestor Burma, cinéma municipal, faut-il le rappeler ?
C'est l'or. Il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps. Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré bon Dieu ! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou !
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
Ah, très vite un agenda. Et oui, cinéma Jean Vigo demain, blow-up d'Antonioni à 20h au centre Rabelais. Et puis Oroya, les indépendances africaines, film de Sunjata Koli. C'est mardi 22 janvier à 20h au cinéma Utopia. 24 notes secondes, c'est au tour du parrain. Merci à Bruno, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Cinérama.
Il n'y a que des combines, il n'y a pas de héros, rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs, rien que des combines et de la merde. Y a pas de saint, y a pas de génie, rien que des combines et des contes de fées, ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM.